Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels.
Les carottes sont cuites, je répète. Les carottes sont cuites.
Je répète.
Le loup est dans la bergerie. Je répète. Le loup est dans la bergerie. Le groove perdu va commencer. Je répète. Le groove perdu va commencer.
Salut à vous et bienvenue sur votre radio locale à la recherche du groove perdu. Session numéro 346, une émission à géométrie variable produite depuis 2011. Diffusion radiophonique sur les ondes de RDIWA, Radio Saint-Ferréol, Radio Dragon, Radio Transparence et Radio Sainte-Afrique. Cette semaine, en ce début d'année 2021, on attaque un nouveau cycle d'émissions. Intitulé 2020, chronique d'une année de merde, on va faire pendant plusieurs émissions le bilan de l'année qui vient de s'écouler avec une approche chronologique pour bien se rappeler le merdier dans lequel on a nagé pendant un an. Un rappel pas pour remuer le couteau dans la plaie mais plutôt pour essayer de comprendre, d'analyser et éventuellement d'anticiper des prochains épisodes de ce type dans les années à venir pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et bien identifier les raisons d'une telle situation. Une année 2020 qui apparaît pour beaucoup comme une année charnière où beaucoup de choses ont basculé. Il y a un avant 2020, il y aura un après, notre relatif sentiment de sécurité, notre liberté, nos relations avec les autres, nos croyances en un état salvateur et protecteur, bref. Une année choc qui témoigne entre autres que le système capitaliste et son modèle de développement est à bout de souffle, un virus respiratoire parti de Chine en fin d'année 2019 dans des conditions qu'on ignore encore exactement. Aujourd'hui déboule en quelques semaines seulement en Europe, puis dans le monde entier. Les échanges internationaux sont tels qu'un virus comme celui-ci peut se propager rapidement de nos jours, beaucoup plus rapidement et facilement en tout cas que par le passé. Et là, c'est la fin, l'apocalypse, les bourses s'effondrent, tout s'arrête dans plusieurs pays, les paiements d'hypothèques sont suspendus, les banques centrales déjà éprouvées par la crise systémique de 2008 semblent être à court de solutions, tout comme nos gouvernements. Ce constat amer a montré toute la fragilité et la futilité de ce mode de vie. Une pandémie qui nous révèle, fallait-il encore le démontrer, toute la folie de ce capitalisme, un système économique prédateur du vivant, de la nature, de ses habitants les plus pauvres. La pauvreté a explosé en 2020. Rien qu'en France, on comptait pas moins de 10 millions de pauvres en septembre 2020, selon les calculs du Secours Populaire. Une situation inédite depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour les plus fortunés, pas de problème. En revanche, ils en ressortent grandis. Une pandémie qui nous révèle aussi la grande incapacité des élites gouvernantes à nous protéger, à nous guérir dans des conditions décentes. On supprime à tour de bras des lits dans les hôpitaux publics depuis des décennies. Moins 50% de lits depuis 1980. La moitié des lits d'hôpitaux ont été fermés depuis 40 ans pour des raisons économiques, car il faut gérer l'hôpital comme une entreprise. Pas besoin d'aller chercher bien loin les raisons de nos confinements successifs. Pas assez de place dans les hôpitaux, point barre. 50 lits de réanimation en moyenne par département. 5000 dans toute la France. C'est peanuts. Une pandémie qui nous révèle encore la tournure autoritaire que prend notre régime de gouvernance et son bras armé envers une population qu'elle est censée protéger. La manière dont on a confiné les gens en France a été hallucinante, très punitive. On nous a pris pour des gosses. Infantilisation à outrance, contrôle accentué, privation des libertés, liberté de déplacement, de se mouvoir, liberté fondamentale bafouée, pas à cause d'un virus, mais à cause d'un système hospitalier délaissé, une pandémie qui nous révèle toute la connerie des médias dominants, assoiffés de morts, compteurs journaliers à l'appui, des médias au moins aussi responsables que nos dirigeants politiques pour expliquer l'état de détresse psychologique de millions de personnes dans le pays, une pandémie qui montre une fracture béante dans la société. Ça, ça n'est pas nouveau, mais on a senti durant cette année 2020 que le fossé s'était creusé davantage entre ceux qui se sentent encore en confiance avec nos gouvernants qui gobent la propagande d'État à travers les médias mainstream, qui ont du coup peur de tout. On ne peut rien faire contre la peur, elle guide les pires réactions. À l'opposé, un amalgame de réacs de droite, d'extrême droite, de complotistes en tout genre, de citoyens qui essaient de s'informer autrement, de paumés, de penseurs alternatifs, de déçus, de dépressifs hyper lucides, d'altermondialistes qui n'ont pas confiance en ce qu'on leur raconte, qui n'ont pas peur, mais qui veulent savoir, comprendre pourquoi une maladie à peu près aussi mortelle que la grippe induit une telle réponse politico-médiatique, une réponse disproportionnée à tout égard, des mesures, injonctions paradoxales, communication psychopathe et contradictoire, mesures hypocrites, ridicules, incohérentes, voire tout à la fois. Une pandémie enfin qui a imposé des mots qu'on ne connaissait pas ou peu jusque-là ou qui faisaient partie du passé. Confinement, quarantaine, gel hydroalcoolique, gestes barrières, distanciation sociale, cas contact, cluster, présentiel, distanciel, attestation dérogatoire de déplacement, reconfinement, la liste est longue. Voilà de quoi il sera question durant ces 4 prochaines émissions de cette année 2020. Chronique d'une année de merde, c'est parti.
On s'embrassait au mois de janvier sans se préoccuper des distances. Parfois on allait même danser, ça paraît dingue quand on y pense. Notre principale problématique, t'imagines que c'était alors le réchauffement climatique. J'en rigole encore. En février, petit coup de mou, y a le virus chez nos voisins, mais il passera pas par chez nous, promis parole d'Agnès Buzyn. Elle nous fait le coup de Tchernobyl et puis elle s'en va en loose dé dans la course pour l'hôtel de ville, vu que Griveaux s'est fait griller.
En mars, la guerre est déclarée, tout le monde en ordre de bataille, c'est-à-dire devant la télé, à regarder Sibeth Ndiaye.
On ferme les frontières brutalement, Marine Le Pen est toute réjouie, comme quoi dès qu'il n'y a plus de migrants, ah ouais, ça va mieux dans le pays.
À 2020 dans l'Hexagone,
on peut pas dire que ce soit la fête.
Il est loin le temps des gilets jaunes
et des manifs pour les retraites.
On nous a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, de rester à notre domicile, qu'on pourrait ressortir bientôt, peut-être.
Ensemble on va sauver la France, devant Netflix c'est notre destin, chacun sa visioconférence et sa recette de tartatin. Tartatin.
Au mois de mai, waouh, on est dehors, fini de jouer les troglodytes, pas plus de 100 km d'abord, il faudrait pas y aller trop vite.
Pendant que la culture est à genoux, pas besoin de tigre à enfourcher, de Villiers rouvre le puits du fou, d'un petit texto à l'Elysée.
Un peu déçu par le mois de juin,
à peine quelques féminicides,
et puis des policiers ricains qui tuent des noirs, bref, la routine.
Une petite canicule au milieu, ça fait toujours plaisir, t'as vu. S'y restait encore 2-3 vieux, voilà le problème résolu.
À 2020 dans l'Hexagone, y'a de quoi te refiler des cheveux blancs.
Si vous trouvez que j'ai l'air en forme, dites-vous qu'en vrai j'ai 14 ans.
Juillet c'est le grand remaniement, Édouard Philippe est trop populaire, on va mettre un gars moins gênant qui fera pas d'ombre à Jupiter.
Sa préoccupation première c'est de relever le PIB,
la croissance et Bruno Le Maire c'est leur seule gloire à s'étarrer.
On s'est presque fait chier au mois d'août, rien d'anormal à déclarer, une vague explosion à Beyrouth et une défaite du PSG.
Pendant que de Biarritz au Cap d'Agde, on troque les masques pour les tubas, en surfant sur la deuxième vague, coin virus, me souviens pas.
En septembre finit la bamboche, c'est l'heure de la rentrée scolaire, dans la classe avec 35 mioches, vive le protocole sanitaire.
Pendant qu'à l'hôpital on jure qu'on peut pas donner plus d'argent, mais on vous propose un Ségur parce que ça sonne bien.
À 2020 dans l'Hexagone,
c'est le monde d'avant mais en plus pire.
Mets-moi un verre de Côte-du-Rhône,
Il reste encore 3 mois à tenir.
Octobre inédite puis la guerre, un couvre-feu est instauré.
Si j'avais le droit de voir ma grand-mère, ça nous ferait un truc à partager.
Rajoute là-dessus les attentats et tous les commentaires débiles. Là c'est un petit peu trop pour moi, j'ai fini tous les Lexomil.
En novembre, eh ben c'est maintenant, on est au top de l'euphorie. Reconfinement comme au printemps, sauf qu'on peut aller chez Darty.
Ouf! Pendant qu'on est tous confinés, ils votent une loi sécuritaire qui nous interdit de filmer toutes les violences policières qui n'existent pas pourtant.
Faudrait peut-être mieux qu'on s'arrête là, même s'il nous reste le mois de décembre. Je préfère brûler mon agenda, car j'imagine pas ce qu'on va prendre.
Inondation,
tremblement de terre,
peut-être une invasion de martiens,
ou pire encore, Michel Drucker qui claque le soir du 31.
À 2020 dans l'Hexagone.
C'était une belle aventure humaine.
Profitons-en, car si ça se trouve, y a plus d'humains l'année prochaine.
Début janvier 2020, de quoi parlait-on dans les médias? De la fuite spectaculaire de Carlos Ghosn, des incendies dévastateurs en Australie, d'un général iranien tué lors d'un raid américain, des débats houleux sur la réforme des retraites et d'une mystérieuse pneumonie venue de Chine, encore éclipsée dans la presse par l'actualité brûlante. La première trace de contenu français évoquant le virus passerait presque inaperçue. Elle peut être trouvée sur le site de Sputnik France, une agence de presse internationale créée en 2014. Par le gouvernement russe et considéré proche de l'extrême droite, le site, en citant les autorités chinoises, évoque dès le 31 décembre 2019 27 cas de pneumonie virale enregistrés en décembre dans la province de Hubei en Chine. Puis l'information se diffuse davantage via un quotidien régional, premier média d'envergure à évoquer le virus, La Voix du Nord, qui le 3 janvier titre un article sur une mystérieuse épidémie. Mystérieuse pneumonie en Chine, c'est le titre de la première dépêche de l'agence France Presse AFP évoquant le virus. L'AFP, dont le fil tombe dans toutes les grandes rédactions françaises, écrit le dimanche 5 janvier que les autorités chinoises ont fait état dimanche de 59 personnes souffrant d'une mystérieuse pneumonie d'origine inconnue, démentant toutefois qu'il s'agisse du SRAS, une maladie virale responsable de 700 morts officielles en 2003. L'AFP commente déjà l'hypothèse d'un lien de cette maladie avec un marché de gros de poissons et d'animaux vivants dans la ville de Wuhan. Le 5 janvier, l'OMS se prononce encore à l'époque contre toute restriction en matière de voyage ou de commerce visant la Chine. Dès lors, cette maladie commence à attirer l'attention dans les articles. L'usage du conditionnel est souvent de rigueur avec toujours en toile de fond le spectre du SRAS. Le 8 janvier, nouvelle dépêche AFP qui indique qu'un nouveau coronavirus ne peut être exclu. Le 11 janvier, le premier mort est officiellement rapporté en Chine. Mais bon, pas trop de stress encore. En France, en témoigne cet extrait de journal de 20h de RTL qui date du 20 janvier 2020 où le mystérieux virus n'arrive qu'en 5e position des titres, derrière Sarkozy, Laurent Berger de la CFDT, l'interpellation de terroristes présumés à Brest et la mort d'un Somalien dans un camp de migrants au nord de Paris. Autant dire que pour l'instant, tout va bien, Madame la Marquise. On se retrouve dans quelques minutes. À toutes.
Le journal avec vous, Alexandre de Saint-Aignan. Il était resté discret depuis le début de la grève contre la réforme des retraites. Nicolas Sarkozy en a dit quelques mots tout à l'heure depuis Romorantin.
L'ancien président était l'invité d'honneur des vœux du député Guillaume Pelletier face à une salle comble. Il s'est dit inquiet de voir l'indifférence qui s'installe peu à peu dans notre pays, l'antiparlementarisme et la haine de l'autre. La République française, selon Nicolas Sarkozy, ce n'est pas les scènes de violence à laquelle nous assistons depuis des semaines, je cite.
Laurent Berger va porter plainte après une deuxième intrusion en 4 jours à la CFDT. été.
Cet après-midi, une quinzaine de personnes masquées sont entrées dans le bâtiment de la centrale syndicale pour couper l'électricité brièvement, une action revendiquée dans la foulée par la CGT Énergie. Le secrétaire général de la CFDT dénonce une attaque inacceptable. Cet homme interpellé ce matin par les renseignements à Brest, une information judiciaire a été ouverte pour association de malfaiteurs à visée terroriste et criminelle. Les enquêteurs de la DGSI les entendent actuellement pour tenter de comprendre la nature de leur projet et leur niveau de détermination. Un Somalien retrouvé mort dans un camp de migrants du nord de Paris, âgé de 28 ans. Et âgé de 28 ans, son corps a été découvert dans sa tente ce matin. Les circonstances de son décès ne sont pas encore connues. Il avait fait sa première demande d'asile début janvier. Le bidonville de la porte d'Aubervilliers doit être évacué avant la fin du mois, selon la préfecture d'Île-de-France.
Une réunion d'urgence à l'OMS, ce sera après-demain, face à un nouveau virus inquiétant en Asie.
Proche du SRAS, ce virus se répand en Chine et dans trois autres pays asiatiques. L'Organisation mondiale de la santé doit se réunir à Genève pour décider s'il faut déclarer ou non une urgence de santé publique de portée internationale, une qualification qui est utilisée uniquement pour les épidémies les plus graves.
Le foot, il y a un match de coupe comme on les aime ce soir. Les amateurs de Saint-Privé-Saint-Hilaire jouent contre Monaco.
Alors sur le papier, il n'y a pas photo. Hein, les Monégasques.
Ah, mais ça joue sur le terrain, pas sur le papier.
Champion de France, exactement.
Allô, 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 James. Quelle nouvelle. Absente depuis 15 jours. Au bout du fil, je vous appelle. Que trouverai-je à mon retour? Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien.
Un épisode méditerranéen exceptionnel dans la zone avec des fonds comme lui. Demain, le temps va rester ensoleillé.
On déplore un tout petit rien, un incident, une bêtise, la mort de votre jument grise. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien.
13 à Marseille.
Allô, allô, Martin, quelle nouvelle. Ma jument grise, morte aujourd'hui. Expliquez-moi, cocher fidèle.
Le 13, le 15, le 8, le 12 et le 5.
Madame la marquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Et la péri dans l'incendie qui détruisit vos écuries. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien.
Le 23 janvier 2020, deux jours avant le nouvel an chinois, c'est le confinement de la ville de Wuhan. Wuhan, une ville de 10 millions d'habitants, la capitale de la province de Hubei. Reconnue pour être l'épicentre de l'épidémie, les autorités chinoises vont appliquer un confinement pour le moins strict, digne d'une bonne dictature qui s'assume pleinement. Au départ, une personne par famille pouvait faire les courses tous les 3 jours, c'est ensuite passé une fois par semaine, puis plus du tout. Tout était fait avec des livraisons de denrées organisées par quartier. Seuls les journalistes pouvaient sortir. Les commerces étaient fermés. Quelques images, toujours les mêmes, circulaient sur les hôpitaux débordés, sur des stades réaménagés pour accueillir les malades. Wuhan a été le lieu de toutes les spéculations au début d'année. Pourquoi là-bas? Pourquoi incriminer les chauves-souris, le pangolin, ce marché d'animaux? Quel est le lien entre cette épidémie et la présence d'un laboratoire de type P4, c'est-à-dire un labo de haute sécurité où on manipule des virus? Laboratoire cofinancé par la France et les États-Unis, un virus naturel ou créé par l'homme, échappé du laboratoire accidentellement ou de manière involontaire, on lit de tout sur Internet. Exemple typique des informations contradictoires, potentielles fake news, délires complotistes et autres commentaires médiatiques qui ont participé au bordel dans nos pauvres petites têtes qui avaient bien du mal à faire le tri dans tout ça. C'est bien connu, le paradoxe rend fou, mais avec un peu de recul, on voit que les thèses complotistes du début de l'année à ce sujet sont devenues peu à peu politiquement correctes, au point qu'on en parle de manière totalement décomplexée sur une radio de grande écoute comme Europe 1, extrait d'une émission d'avril 2020 sur ce laboratoire de Wuhan et de ses liens présumés avec l'émergence de la maladie C'est parti.
Covid-19 n'était pas apparu sur un marché aux animaux à Wuhan en Chine, comme on laisse entendre depuis le début, si le virus s'était plutôt échappé d'un laboratoire, cette thèse est de plus en plus évoquée, en particulier par les médias américains.
Avec plusieurs indices, laissent penser que la Chine n'aurait pas tout dit. Bonsoir Théo Menval.
Bonsoir.
Alors bien sûr, il faut prendre toutes les précautions d'usage, toutes les précautions nécessaires, mais cette théorie, elle est bel et bien en train de prendre de l'ampleur.
Oui, et à l'origine, ce sont ces révélations il y a quelques jours du Washington Post. Des diplomates américains, dit le journal, ont visité à plusieurs reprises l'Institut de virologie de Wuhan il y a 2 ans et ils ont envoyé 2 avertissements officiels à Washington pour alerter sur les carences en matière de sécurité, d'étanchéité si vous voulez, alors qu'y étaient menées des études sur les coronavirus provenant de chauves-souris. L'information a fait grand bruit au point que certaines figures controversées comme le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, avancent aujourd'hui que ce nouveau virus y aurait été créé de toutes pièces. Déclaration fracassante sur le site Pourquoi Docteur.
Le génome complet de ce nouveau virus a des séquences d'un autre virus qui est le virus du sida. Ce virus a échappé peut-être à ses promoteurs. Je pense, c'est l'hypothèse la plus raisonnable, qu'il voulait faire un vaccin contre le VIH.
Mais cette hypothèse d'un virus créé par l'homme est battue en brèche par l'essentiel du corps scientifique, à commencer par l'Institut Pasteur qui a étudié son code génétique. Des points communs avec d'autres virus sont fréquents et rien ne permet de dire ici qu'il y aurait eu intervention humaine, assure un chercheur. Reste cette piste, donc, d'une fuite par accident. L'historien François Godemont est spécialiste de la Chine à l'Institut Montaigne.
C'est bien sûr la plus explosive. Elle n'est pas démontrée. Il n'y a pas de preuve. Il y a simplement quelques indices. Premièrement, les premiers cas avérés, attestés d'ailleurs par les Chinois eux-mêmes, ne proviennent pas du fameux marché aux poissons et aux animaux sauvages. Deuxièmement, la Chine ne donne pas accès aux premiers spécimens du virus lui-même.
Et la Chine continue d'ailleurs de démentir, mais sans convaincre, le chef de la diplomatie américaine annonce l'ouverture d'une enquête.
Arizona.
24 janvier 2020, le nouveau coronavirus chinois est déclaré officiellement en France sur 3 patients, dont un qui revenait de la région de Wuhan en Chine. Mais on sait maintenant que les premiers Français à avoir été contaminés sont vraisemblablement des sportifs militaires qui ont participé aux Jeux militaires de Wuhan, des Jeux organisés en octobre 2019. 400 sportifs français étaient présents sur place et certains ont développé des symptômes grippaux à leur retour. 31 janvier 2020, rapatriement de militaires français de la région de chinoise de Wuhan, toujours elle. La ministre des Armées, Florence Parly, répond face au Sénat, inquiet début mars, que tous les soldats concernés ont été testés et qu'aucun n'était positif. Mensonge, le premier d'une longue série, car ces militaires sont rentrés dans l'Oise à Creil ce 31 janvier sans qu'aucun test ne leur soit pratiqué. Or, quelques semaines plus tard, le premier cluster, anglicisme à chier, entendez par là, le premier foyer d'infection français du coronavirus était fixé à Crépy-en-Valois, à 30 km de là. Il serait de toute façon arrivé jusqu'à nous. Mais quand même, merci l'armée, merci mon lieutenant, merci mon commandant pour votre contribution à cette belle année 2020. On écoute, sage comme des sauvages, mon commandant. la recherche du groupe perdu, session 346. On démarre cette semaine un cycle d'émissions intitulé 2020, chronique d'une année de merde. Durant 4 émissions, il sera question de Covid, de confinement, d'attentats au couteau, de lois de sécurité globale, de quarantaine, de gestes barrières, de mascarades, d'attestations dérogatoires, de déplacements, d'explosions au Liban, bref, de tout ce qui a fait cette année 2020. Une année à part dans ce début du 21e siècle, on s'en souviendra tous, c'est certain. L'année du début, de la fin, du renouveau, tout dépend comment tout ça va évoluer et comment on le prend. Pour cette première émission, on se concentre sur ce début d'année 2020, avant le confinement. Et on reprend notre chronique. Nous sommes début février, l'épidémie gagne une place de plus en plus importante dans la hiérarchie de l'information. Au fur et à mesure que le bilan des malades s'alourdit, les dépêches AFP se multiplient. Au fur et à mesure que le virus touche l'Europe, le bilan est chaque jour revu à la hausse. C'est finalement le 11 février que l'Organisme mondial pour la santé, l'OMS, met un nom sur cette pneumonie virale, terminologie désormais mondialement connue, utilisée par tous les médias. Le Covid-19, autrement appelé Corona, mais couille le 18 février. Alors, ministre de la Santé Agnès Buzyn quitte son poste, la larme à l'œil, avec en ligne de mire l'hôtel de ville de la mairie de Paris. Elle remplace au pied levé un certain Benjamin Griveaux, qui s'est fait griller pour une histoire de sgeg à l'air. Agnès Buzyn laisse sa place à un médecin urgentiste, Olivier Véran, qui avant de rentrer dans le rang faisait la grève en 2007 avec ses collègues pour protester contre la gestion de l'hôpital public. On verra sa tronche comme celle de Édouard Philippe, Castex, De Frécy et ses collègues du conseil scientifique, ou encore Didier Raoult, tout au long de cette année 2020. Le 25 février, vidéo buzz de ce même Didier Raoult, infectiologue de l'Institut Méditerranée Infection à Marseille et accessoirement mondialement reconnu pour ses travaux. Il reprend les annonces d'une étude chinoise qui observe l'apparente efficacité d'un antipaludéen pris par des millions de personnes à travers le monde, la chloroquine. Il s'en félicite et soignera ses patients avec cette méthode. On en reparlera de Raoult et de la chloroquine, car ce n'est que le début d'un sujet et d'un personnage qui va diviser et faire jaser tout au long de cette année. Le même jour, 25 février, le premier Français, un enseignant de Crépy-en-Valois et conseiller municipal de Vaumois, succombe du Covid dans le service de réanimation de la Pitié-Salpêtrière à Paris. C'est le premier mort français officiel du Covid. 2 jours plus tard, le 27 février, Manu Militari Macron se rend dans ce même hôpital pour faire un petit coucou au personnel de cet hôpital et le remercier pour son dévouement. En profitant de cette occasion inespérée, un neurologue, François Salacha, interpelle Manu sur la crise de l'hôpital. Un moment d'échange intéressant, quoique très artificiel du fait de la présence des caméras. Un échange qui s'accompagne d'une poignée de main interminable et de palabres soigneusement policées des deux côtés. Mais le plus intéressant, a posteriori, c'est le côté prémonitoire de cet échange, un rappel à l'ordre avant effondrement, comme si le mec savait que ça allait dégénérer cette histoire de virus. Quelques semaines plus tard, les services hospitaliers qui font régulièrement grève depuis 2007 vont dénoncer l'abandon des pouvoirs publics, vont devoir faire face à un afflux considérable de patients en détresse respiratoire, une séquence souvenir dont on va se délecter pendant quelques minutes. C'est parti.
Et là, en ce moment, ça se joue à rien. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire pour l'instant.
Donc je compte sur vous.
Ah oui, vous pouvez compter sur moi. L'inverse reste à prouver.
Non, non.
Je suis là parce que c'est une dernière fois, c'est vous, en clair. Mais vous, en tant que président, vous, en tant que protecteur des citoyens, on est vraiment là. On est au bout. Non, pour l'instant, vous n'êtes pas là. Prenez la main. C'est très clair, je suis désolé. Bonjour. Prenez la main et donnez les moyens au ministre de la Santé, à Martin Hirsch, qui est derrière vous. Donnez-lui les moyens de nous donner les moyens de soigner nos patients. Les personnels hospitaliers, le corps soignant dans son ensemble a fait tous les efforts nécessaires. Nous sommes au bout, oui. Mais on a besoin d'un choc, vous aimez bien les chocs, donc un choc d'attractivité. Il faut absolument refinancer en urgence à l'hôpital. Je suis vraiment désolé, mais c'est extrêmement important. Je ne suis pas là pour moi, vous avez compris.
Je sais.
Je suis là, vous savez qui est derrière moi? L'ensemble du corps soignant. Et on ne peut pas se contenter d'effets d'annonce, je suis désolé.
Ah, mais moi je ne suis pas pour les effets d'annonce.
Non, d'accord, mais on est passé par un an de déni. Après, on a fait le constat, maintenant il faut agir.
J'ai peur malheureusement qu'on soit passé par beaucoup plus qu'un an de déni, le fond de ma pensée.
Alors moi, le fond de ma pensée, c'est que Kairos, c'est le moment opportun, et le moment opportun pour le président de la République d'agir, même dans une situation dont il n'est pas responsable, oui. C'est maintenant. Il faut saisir. Est grand, pas seulement du fait que cette épidémie, on ne sait pas comment elle va évoluer, le risque est grand parce que le système, en tout cas des hôpitaux publics, est actuellement, je dirais, en partie sinistré. En d'autres termes, les moyens qu'il faut injecter pour qu'il y ait des personnels pour s'occuper des lits, c'est des moyens qui sont urgentissimes. Sans injection de moyens rapides, nous ne pourrons pas faire face à ce type de crise. Effectivement, au moment des attentats, les personnels soignants sont revenus travailler. Effectivement, on peut se satisfaire que les grèves qui étaient urgentes aient pu continuer. Tout ça, c'est très bien. Mais on n'est pas dans la même situation actuellement. La situation s'est considérablement aggravée. Et je pense qu'il est de la responsabilité des tutelles en général et du président de la République, qui est le protecteur de l'ensemble de la nation, d'assumer ce rôle. Et c'est maintenant. C'est tout de suite. C'est pas dans 6 mois, c'est pas dans 1 an.
Je vous ai entendu, docteur. Je veux juste qu'on ait collectivement l'honnêteté de se dire, je suis comme vous, je crois au Kairos. Mais le Kairos, il doit intervenir dans un moment de vérité. Ce moment de vérité, c'est aussi qu'on n'est pas resté assis sur sa chaise depuis 2 ans et demi. Vous me l'accorderez. Et donc, je dis pas que...
Nous en reparlerons.
C'est ce qui justifie d'attendre. Je suis pas pour attendre. J'ai parfois le sentiment de payer l'addition de beaucoup de comptes qui sont restés non soldés. Je veux bien les prendre, mais je veux au moins avoir un tout petit peu de reconnaissance pour ça.
On sera transparent là-dessus.
On le fera, c'est bien. Mais en tout cas, indépendamment de ça, je vous remercie infiniment pour la mobilisation et l'esprit de responsabilité qui est le vôtre. Parce que vous êtes au service de nos concitoyens, avec un formidable engagement et une humanité que je veux ici saluer. Donc merci beaucoup.
Boumé, 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 bo
Monsieur Président, interprété par le groupe Delgrès, et puisqu'on parle hôpital, pénurie de lits d'hôpitaux, il me semble important, avant de continuer, et notamment de revivre ce qui s'est passé pendant le confinement, ça ce sera la semaine prochaine, de rappeler des chiffres que tous devraient connaître avant de spéculer sur l'utilité ou non de cette mesure extrême qui nous a été imposée. Qu'on se comprenne bien, on n'a pas été confiné parce que la maladie était grave ou dangereuse, ça, tous les chiffres prouvent que les taux de mortalité sont faibles, de l'ordre de 0,5% des personnes infectées. On a été confiné parce qu'il n'y a pas assez de lits d'hôpitaux pour s'occuper des malades en cas d'événement exceptionnel. Voici les chiffres issus de plusieurs sources. Les ordres de grandeur sont effarants et à charge contre les différents pouvoirs qui se sont succédés depuis Giscard d'Estaing. On n'a pas supprimé quelques lits, non, on en a supprimé plus que de raison depuis 40 ans. Voici les chiffres en question issus de plusieurs sources. Données IRDES, Institut de Recherche de Documentation en Économie de la Santé, le nombre de lits décroît pour les hôpitaux publics de 392 000 lits en 1980 à 256 000 en 2011. Statistiques de l'OCDE sur la santé, 11 lits d'hôpitaux pour 1000 habitants en 1980, 6 lits d'hôpitaux pour 1000 habitants en France. Ça, c'était en 2017, moins 46% sur la période. Enfin, données DRES, Direction de la Recherche, de l'Évaluation et des Statistiques, organisme du ministère de la Santé. En 2017, les établissements de santé publics et privés comptent un peu moins de 400 000 lits d'hospitalisation à temps complet, soit 69 000 lits en moins qu'en 2003 et même 100 000 lits en moins en une vingtaine d'années. Bref. Les hôpitaux sont saturés parce qu'il y a moitié moins de lits par rapport à 1980. Ils étaient déjà saturés avec les derniers épisodes grippaux avant Covid en 2014 et 2017. Et ils le seront encore dans les années à venir si la tendance continue. La solution à cette tendance structurelle du système hospitalier ne se situe ni dans les mesures sanitaires ultra-hygiénistes et psychopathes actuelles qu'on nous fait subir, ni dans les mesures de restriction des libertés, ni dans les mesures de contrôle de population, ni dans des applis, mais bien dans un investissement public et un accroissement massif du nombre de lits pour revenir à une situation proche de celle qui existait en 1980. Petite historique et précision sur ces suppressions de lits et leurs conséquences. Un reportage d'avril 2020 signé France Info.
En 15 ans. Voilà un chiffre qui circule sur les réseaux sociaux et qui interpelle sur la casse de l'hôpital public. Cette donnée est juste, mais elle mérite quelques explications. Commençons par le début. 1979, la loi autorise pour la première fois le ministre de la Santé à supprimer des services et des lits dans les hôpitaux publics. Les premiers grands plans de suppression de lits remontent aux années 90. Plusieurs raisons à cela, avec le progrès de la médecine, la durée des séjours hospitaliers est plus courte qu'avant. Autre raison, le trou de la sécurité sociale, il faut faire des économies.
Quand on ferme des services, évidemment que c'est grave parce que ça bloque l'activité, on ne sait plus où mettre les malades, c'est pas normal, un hôpital n'est pas fait pour fermer, il est fait pour soigner.
Le message est répété de manifestations en blocage partout en France. En 2002, c'est Patrick Peloux, célèbre médecin urgentiste, qui appelait à l'aide.
Et là, nous sommes dans une situation qui est absolument dantesque, puisqu'il n'y a plus de lits pour pouvoir hospitaliser les malades venant aux urgences, et que nous avons connu ces jours-ci même des soirées où il n'y avait pas de lits de réanimation.
Le nombre de lits en France en hospitalisation complète est passé de 468 418 en 2003, à 399 865 en 2017, donc moins 68 553. Mais il faut nuancer ces données. S'il y a moins de capacité d'accueil en hospitalisation complète, c'est notamment parce que dans les années 80, la France a fait le choix de l'hospitalisation ambulatoire, des séjours de moins d'une journée. On parle alors de places en hospitalisation partielle. Toujours sur la période 2003-2017, les places en hospitalisation partielle sont passées de 49 363 à 75 452, plus 20 089 lits. Pas de quoi compenser les quelques 69 000 places perdues en hospitalisation complète. La difficulté se fait surtout sentir pendant les périodes tendues, lors d'épidémies de grippe par exemple, ou en temps de canicule, comme ici en 2006.
Pour être plus clair, ils vont rester sur un brancard dans le couloir.
Vous appelez ça comment ?
Les lits virtuels.
Enfin, comparons la capacité d'accueil avec d'autres pays touchés par le Covid-19. D'après les dernières données de l'OCDE, en 2017, la France comptait 6 lits pour 1000 habitants, bien moins que la Corée du Sud, moins que l'Allemagne, mais plus que les États-Unis, l'Italie et la Chine.
Au début du mois de mars, la mortalité observée à l'échelle de la France est comparable à celle des années passées. Il n'y a pas encore de pic de surmortalité dû au Covid, pas encore de panique médiatique et les hôpitaux ne sont pas encore en surcharge. En Italie, par contre, c'est pas la même. C'est le pays d'Europe qui va le plus morfler dans ce début d'épidémie. Le premier mort officiel européen est italien. Il s'appelle Adriano Trevisan. Il a 78 ans et il meurt le 21 février à Padoue, dans le nord de l'Italie. Déjà, dans des dizaines de municipalités du nord, les parcs sont fermés, des mesures de confinement sont prises, notamment à Codogno, près de Lodi, où affluent les journalistes sans masque, évidemment. Mais le premier ministre Giuseppe Conte rassure ses compatriotes. Tout est sous contrôle, t'inquiète Huguette. Le lendemain, le 22 février, les journaux consacrent enfin la une au coronavirus, mais là, la peur ne s'empare vraiment des Italiens que le week-end des 7 et 8 mars, quand, face à une forte hausse des cas dans le nord du pays, notamment Lombardie, des mesures de confinement sont imposées à 10 millions d'habitants. Des milliers de personnes fuient souvent vers le sud, d'où ils sont originaires. Autant de véhicules potentiels de contagion parmi les cas positifs dans les Pouilles. le talon de la botte italienne. Beaucoup sont des parents de ceux qui ont participé à cet exode. Dans la nuit du 9 au 10 mars, dans une allocution officielle, Giuseppe Conte voit grave et solennel, étant le confinement à tout le pays, les commerces dits non essentiels. On en reparlera de ce non-essentiel. Sont fermés les déplacements autorisés uniquement pour raisons professionnelles ou impérieuses. Les rassemblements proscrits, y compris les messes. Les résultats seront visibles après 2 semaines, prévient-il. Le 11 mars, une vidéo est postée en provenance d'Italie. On y voit un acteur de la série Gomorra, Luca Francese, filmer son appartement où gît sa sœur sans vie, morte du coronavirus, dit-il. Il dit son désespoir face à la situation. « Tout est sous contrôle », disait la veille Giuseppe Conte. « Il n'en est rien. Les hôpitaux sont déjà surchargés. Le personnel à bout et le même personnel appelle à l'aide. À partir de ce moment-là, la panique va passer la frontière et les Alpes pour débarquer chez nous. Les vidéos en provenance d'Italie vont faire le tour des télés et le sujet devient le sujet number one. » On écoute une archive de France 24 qui date de cette période charnière où on commence à avoir vraiment peur de la maladie. On ne savait pas encore à l'époque que le taux de mortalité était de 0,5% parmi les gens infectés. On ne savait rien. Peste, choléra, grippe espagnole, les démons du passé ressurgissent brutalement. Nous sommes le 11 mars 2020.
Luca Francese, un acteur de la série Gomorra, se filme chez lui en larmes. Devant un lit où se trouve sa sœur, Teresa, elle vient de mourir.
Je ne peux pas lui rendre l'hommage funéraire qu'elle mérite, parce que les institutions m'ont abandonné. J'ai appelé partout et personne ne me vient en aide.
Dans une autre séquence, publiée peu après, il révèle que Teresa, âgée de 47 ans, est bien morte du coronavirus et qu'il craint d'être contaminé. Avec plus de 600 morts et 10 000 personnes infectées par le Covid-19, c'est tout le système hospitalier italien, au nord comme au sud, qui est débordé et qui appelle au secours en direct à la télévision.
Nous sommes à la limite de nos forces, aussi bien physiques que mentales. Aidez-nous, les hôpitaux sont saturés, nous ne pouvons plus soigner tout le monde.
Depuis 36 heures, toute l'Italie est un pays fantôme, et le petit État du Vatican également. En ce mercredi matin, la place Saint-Pierre est d'ordinaire noire de monde. Aujourd'hui, le pape François est resté à l'intérieur du palais pontifical. Dans les rues, beaucoup d'Italiens portent dorénavant les masques. Dans les supermarchés, les clients doivent maintenir une distance d'un mètre entre eux. Et seules les sorties indispensables sont autorisées.
Le gant et les masques, je les mets dans le métro, mais là, pour quelques centaines de mètres, je les ai enlevés.
On essaye d'éviter le plus possible les lieux où il y a du monde, et même entre amis, on garde nos distances.
Les bars et les restaurants doivent fermer à 18 heures, et la police veille. L'Italie tout entière apprend à faire le deuil de sa convivialité.
Police, message in a bottle, un message dans une bouteille, un appel à l'aide lancé par les hôpitaux italiens en ce 11 mars 2020. Confinement pour les Italiens, cette date depuis 2 jours. Ça va pas tarder pour nous, petits Français angoissés par les infos provenant d'Italie et de Chine. La suite, vous la connaissez, vous l'avez vécu. Ça, ce sera la semaine prochaine où il sera question de quarantaine, de confinement, de plusieurs milliards d'individus bloqués chez eux. Une première mondiale avant de se quitter. Et pour clore cette émission sur une note un peu plus légère, on va écouter ce bon vieux Pierre Desproges nous dresser un portrait du pangolin, une des stars de ce début d'année 2020. Une archive de France Inter de 1986, c'était la chronique de la haine ordinaire. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite de cette chronique de l'année 2020, une année de merde. Ciao.
Qu'on me permette exceptionnellement de consacrer cette chronique à l'expulsion d'un remords qui me ronge. Je voudrais présenter ici mes excuses au pangolin. Le pangolin est un mammifère édenté d'Afrique et d'Asie. C'est une bête éminemment pacifique. De ma vie, je n'ai jamais eu à me plaindre d'un pangolin. Pourtant, dans un petit livre que j'ai publié il y a plus d'un an et dont je vous recommande vivement d'éviter la lecture, je m'étais permis de porter un jugement sans doute blessant et péjoratif, visant à discréditer l'image publique de ce paisible quadrupède. Comme ça, pour faire sourire, pour vendre du papier. Bassesse. Par la suite, repris par le tourbillon de la vie, mon travail, mes amours, ma santé préoccupante, puisqu'à 46 ans passés, je n'ai toujours pas de cancer, j'avais fini par oublier le pangolin. Or, mercredi dernier, l'un des prétendants de ma fille, il n'a pas fini de prétendre, ils ont 9 ans chacun, l'un des prétendants de ma fille donc est entré furibard dans mon bureau, le livre en question à la main. « Dis donc, t'es vraiment salaud avec les pangolins !» Après lui avoir fait remarquer que ce n'était pas là le ton convenable pour s'attirer les grâces d'un beau-père potentiel, je finis par lui accorder un bref entretien sur celui de mes genoux où n'était pas le chat. « Pauvre pangolin, regarde ce que t'as écrit !» Et en effet, à la relecture, je ressentis comme une méchante intention de blesser dans la description physique et morale que j'avais brossée du pangolin. « Mais tu sais, c'était pour de rire !»« Ouais, mais n'empêche que ça peut faire de la peine. Tu serais un pangolin, ça m'étonnerait vraiment que ça te fasse rigoler, tu vois !» Il me montrait du doigt le passage incriminé. « Le pangolin mesure 1 mètre, sa femelle s'appelle la pangoline, elle ne donne le jour qu'à un seul petit à la fois qui s'appelle Toto. » Le pangolin ressemble à un artichaut à l'envers, prolongé d'une queue à la vue de laquelle on se prend à penser que le ridicule ne tue plus. Je reconnais que j'ai tapé fort. Le mot ridicule est un peu dur, c'est ça qui te gêne. Ah non, ça c'est rien, c'est Toto. C'est Toto, Toto c'est complètement idiot pour un pangolin. Mais toi, en fait, qu'est-ce que tu connais, toi, des pangolins? Eh ben nous, quand j'étais en vacances en Côte d'Ivoire, ben, on avait un pangolin et il est mort sous un camion. J'avais lâché sa laisse, il voulait pas se promener en laisse. Ah oui, c'est ça, alors tu as eu de la peine et aujourd'hui tu n'aimes pas trop qu'on se moque des pangolins. Ben oui, pauvre Gérard. Ah, parce qu'il s'appelait Gérard. Oui. Dis donc, dans tes conneries pour la radio le mercredi, tu devrais parler des pangolins pour que les enfants qui ont lu ton livre y voient bien que c'était pour de rire. Je me sentis assez flatté à l'idée que ma mauvaise image de Marc dans son école lui était pénible. Alors bon, rectificatif. Le pangolin. Le pangolin, du malais pangolang, qui signifie à peu près pangolin, est un mammifère édenté d'Afrique et d'Asie qui se nourrit de fourmis et de termites. Il mesure 1 mètre. Son corps est couvert d'écailles très très belles. Il ne ressemble pas du tout à un artichaut. Sa queue s'arrête juste bien quand il faut, c'est formidable. Quand il a faim, le pangolin a un truc que même dans la jungle, aucun fauve, il n'est même pas capable tellement qu'il aurait les boules. D'abord, il trouve une fourmilière grâce à son flair super. Avec son nez pointu et ses griffes super, il s'enfonce au milieu de la fourmilière. Après, il entrouvre toutes ses écailles, très très belles, qui sont de la taille d'une petite feuille d'artichaut, mais très très belles. À ce moment-là, le pangolin réfléchit très fort avec sa concentration, et une petite goutte sucrée comme du miel se met à suinter sous chaque écaille. Et alors, toutes les fourmis, des milliers, des millions de fourmis se jettent dessus. Et le pangolin, sans rigoler, alors que ça chatouille, mais il est super concentré. Le pangolin attend que les fourmis soient arrivées, et clac, il referme toutes les écailles. Après, il sort de la fourmilière, il va dans un coin tranquille, il rouvre ses écailles, il se secoue très fort et les fourmis tombent autour et il les mange. C'est une bête formidable, sauf qu'elle traverse sans garder et ça c'est très dangereux. La femelle du pangolin s'appelle la pangoline, elle donne le jour à un seul petit à la fois qui s'appelle Gérard.
Sur le marché, hein, il était où? Qu'est-ce qu'il faisait là, le gentil tiki-ki? Il fallait pas les chouiller le fruit frit, fallait pas lécher le fruit de papy. Papy, il a mangé le fruit,
Maintenant qui c'est qu'il est dans le caca? Et la chauve-souris alors? La chauve-souris, qu'est-ce qu'il en a fait le petit pangolin? Et les serpents, hein? Et les fourmis, qu'est-ce qu'il a boulotté le petit gourmand? Il était où, hein, le pangolin? Il était où le gentil petit malin? Il était où, hein, le margoulin? Le margoulin, où c'est qu'il était où?
Où ça, hein? Où ça? Où ça, hein? Où ça?
Où c'est qu'il était le kiki, le papillon, le fruit-fruit, les serpents, les chauves-souris sont avec Kiki au proxy?
Où ça, hein? Où ça? Où ça, hein? Où ça?
Il était là, le gentil pangolin, les chauves-souris et les méchants serpents. Ils étaient là, ouh, il y en avait plein, sur le marché de fruits de mer du Rouen. Papy poussait son titi cali, il faisait les concours pour mes mères. Et les fruits de mer, hein, ils sont pour qui? Ils sont pour le rice cooker de mes mères. Et le pangolin alors, le pangolin, est-ce qu'il a une gueule de coquille Saint-Jacques? Le pangolin, hop, dans le cali, alors c'est qui c'est qui a bouffé quoi? Qui l'a bouffé, hein, gentil kiki? Qui c'est qui dit ça a très très bon goût? Qui aime bien ça, hein, le pangolin? À qui ça n'en a fait un bon ragoût? C'était pas les fruits de mes papy à ramener à mes mères. Que si c'était un mammifère, tant pis, mes mères, faut bien que ça serve.
À qui, hein? À qui? À qui, hein? À qui?
Kiki, fallait pas traîner au proxy. Kiki, tout le monde, il est dans le pétrin. Et des conneries, ouh, on en fait plein. Depuis Kiki a refilé son zinzin. Qu'il a fait, oh là, le pangolin? Kiki a fait pleurer Agnès Buzyn. Non mais des fois, oh, vilain tout plein, alors qu'elle a déjà plein de tracas. Et l'économie alors, foutue en l'air, Kiki s'en fout que ça coûte un pognon de fou. Le capital, hein, foutu par terre, Kiki est plus fort que Philippe Poutou. Le plus con-con, hein, c'était qui? Mais qui s'est idée de le plus neuneu? C'est toi Kiki, ou ceux qui t'ont cuit? D'ailleurs, qui c'est qui est le plus cuit des deux?
C'est qui, hein?
Si c'était pas le kiki le plus con-con, alors c'est qui, du pangolin ou du papy? C'est l'être humain ou bien c'est qui?
C'est qui, hein? C'est qui?
De toute façon c'est pas à cause de Kiki.
Alors c'est qui?
Mais si c'était pas le kiki le plus con-con, alors c'est qui, du pangolin ou du papy? C'est l'être humain ou bien c'est qui?
C'est qui, hein? C'est qui?
De toute façon c'est pas à cause de Bibi.
Alors c'est qui?
Mais si c'était pas le kiki le plus con-con, alors c'est qui, du pangolin ou du papy? C'est l'être humain